parler plus longtemps des exploits du noble roi et de ses nobles descendants deviendrait vite monotone. Laissons les dons à leur jeu et tournons-nous plutôt vers l'Orient, d'où déferle une force conquérante que nul n'avait prévue. L'islam. Poitiers, où les Arabes vont trouver face à eux Charles Martel.
Oh, ça alors.
Oh, oh c'est...
Charles Martel vient de sauver l'Europe de l'islam.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est jeudi, donc Jeudi Noir, voilà, je l'ai dit au départ, évidemment je le dis après, Radio Libertaire. Voilà, avec donc Sophie en Bonsoir. Face de moi, José qui est aux manettes, et puis moi Michel, donc qui vais vous parler ce soir d'un livre publié aux éditions Libertalia, il y a peu, un livre de William Blanc et de Christophe Naudin. Alors vous aurez peut-être deviné de quoi il va s'agir, hein, si vous avez écouté le petit montage musical qu'a fait José en début d'émission. C'est un livre qui sera consacré à Charles Martel et à la bataille de Poitiers. Et c'est sous-titré « De l'histoire au mythe identitaire ». Et donc voilà, ce soir nous allons parler de cette fameuse bataille et du rôle, enfin de plein de choses qui tournent autour. Donc vous avez pu entendre un extrait de « L'histoire de l'homme » où il est dit que il était une fois l'homme où il est dit que Charles Martel a sauvé l'Europe de l'islam. Et après, bah, c'était un morceau de Cure qui est très très connu, Killing an Arab, qui s'intitule du roman de Albert Camus, L'étranger, où justement vous avez un personnage qui est en Algérie et qui finit par tuer un arabe sur la plage avec un revolver. Donc voilà, José a posé le décor. Alors, donc j'imagine que pour vous, chers auditeurs, Charles Martel, c'est très très souvent, comme ça l'était pour moi avant de lire le livre dont je vais vous parler, un souvenir d'école, avec quelques petites images d'Épinal ou pas, qui trottent un peu dans la tête, où on sait pas trop bien Charles Martel, bon voilà, c'est un type qui se bat, puis il arrête des Arabes à Poitiers, bon.
C'est la phrase qu'on connaît tous, il arrêta les Arabes à Poitiers.
C'est ça, c'est à peu près la phrase qu'on connaît tous, il arrêta les Arabes à Poitiers. Mais par contre, qui était Charles Martel?
Qui
étaient ces Arabes? Pourquoi était-il à Poitiers? Que faisait-il ici? Etc, etc. Ça, pour la plupart d'entre nous, c'est relativement mystérieux. Et alors, ce que font les auteurs, eux, c'est que, ben justement, ils vont revisiter, avec des moyens d'historien, un personnage historique qui est devenu plus ou moins mythique. Afin de prendre la mesure, d'en prendre la mesure à deux niveaux. Premier niveau, alors les deux niveaux sont liés évidemment. Le premier niveau, c'est un niveau historique. Que s'est-il passé à Poitiers en 732, si c'était bien en 732?
Ça fait débat, ça?
Oui, plus ou moins. Alors, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment débat chez les historiens. Mais ça, je vais venir à juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé en 732 à Poitiers? Premier truc. Et en gros, est-ce que la victoire de Martel, qui à l'époque était simplement nommé Charles d'ailleurs, a été déterminante pour ce qui allait, quelques siècles plus tard d'ailleurs, devenir la France, et pour ce qui était déjà plus ou moins, parce que c'était pas encore bien établi, la chrétienté? Donc, est-ce que cette bataille a eu l'importance historique qu'on lui prête parfois? Mais on peut aussi s'interroger, quand on est historien, sur la place qu'occupe Charles Martel dans ce qu'on pourrait appeler le roman national français. C'est-à-dire que dans ce récit, qui est plus ou moins fictif, plus ou moins mythifié, et qui constitue notre imaginaire en tant que nous sommes allés à l'école, à l'école de la République française, voilà, quelle est la place réelle de ce personnage qui s'appelle Charles Martel.
Et répond à qu'est-ce qu'on en dit maintenant de Charles Martel?
Oui, et ils vont jusqu'à aujourd'hui, puisque, bon, évidemment, les deux dimensions, la dimension mythique et la dimension historique, sont liées. Même si très souvent, on peut s'apercevoir que le mythe a tendance à s'autonomiser par rapport à l'histoire.
Et en mais c'est toujours enseigné dans les classes.
Alors, c'est plus ou moins. En fait, le truc, c'est que ça n'a jamais été réellement enseigné dans les classes.
même la petite phrase qu'on a tous en tête.
Oui, mais ça, très très souvent, ça se limite à ça. Parce que, bon, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce personnage? C'est qu'évidemment, depuis à peu près les années 2000, Charles Martel est devenu, et c'est un peu l'enjeu du livre et aussi de l'émission, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de Charles Martel, c'est qu'il est devenu l'emblème de la lutte de l'Occident chrétien contre l'islamisme,
pour l'extrême droite,
voire contre l'islam direct, pour l'extrême droite, alors pour l'extrême droite c'est contre l'islam en général, et pour certaines franges de la droite c'est contre l'islamisme.
Alors il y a des gens de droite qui sont non identitaires qui utilisent Charles Martel?
Oui, un des premiers qui a relancé la mode, c'est un théoricien américain célèbre qui a bossé pour le Pentagone entre autres et qui est très très connu, s'appelle Samuel Huntington. Et il a publié un livre qui s'intitule Le choc des civilisations, je crois, en 1996. Et lui va commencer déjà à faire de Charles Martel une des figures de la lutte qu'il imagine, que Samuel Huntington imagine, entre justement l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Alors, là, je peux vous citer un petit peu le bouquin de William Blanc et de Christophe Naudin, Charles Martel et la bataille de Poitiers, aux éditions Libertalia. Donc, la théorie de ce professeur de l'université de Harvard, Samuel Huntington, est connue. Contentons-nous de la rappeler. L'histoire, à part la brève parenthèse de la guerre froide, ne s'expliquerait qu'à travers l'affrontement pluriséculaire de grands blocs de civilisation aux contours et aux caractéristiques fixes. Le bloc occidental, englobant à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord, s'opposerait ainsi de manière quasi mécanique au bloc musulman, comprenant de façon assez surprenante l'islam dans un tout uni. Le sort de cet affrontement se serait joué dans de grandes batailles décisives, comme le siège de Vienne en 1683, ou Poitiers, en anglais il parle de Tours. Et alors là, bon, il cite un petit passage de Huntington, le rideau de velours a remplacé le rideau de fer des idéologies comme la ligne de démarcation la plus importante en Europe. Comme l'ont montré les récents événements en Yougoslavie, ce n'est pas seulement une ligne de différenciation, mais c'est aussi une ligne de conflit sanglant. Le conflit sur la ligne séparant les civilisations occidentales et islamiques se déroule depuis 1300 ans. Après la fondation de l'islam, l'avancée des Arabes et des Maures n'a été arrêtée qu'à Poitiers, alors il dit Tours, en 732. Du XIe au XIIIe siècle, les croisés ont tenté et temporairement réussi à ramener la Terre Sainte dans l'orbite de la chrétienté. Du XIVe au XVIIe, les Ottomans ont renversé la tendance, ont étendu leur empire sur le Moyen-Orient et les Balkans, pris Constantinople et mis deux fois le siège devant Vienne. Donc là, dit voici la bataille de Poitiers devenue le symbole de l'arrêt d'une invasion programmée depuis la création de l'islam. Donc cette vision qu'a Huntington, alors j'y reviendrai peut-être un peu en fin d'émission, finalement elle est devenue un peu, comment dire, elle a été reprise un peu partout. Et elle a été reprise aussi à l'extrême droite par les identitaires et après par le Front National, après 2001.
Ce qui n'est pas du tout étonnant.
Ce qui n'est pas très étonnant, encore que si, on va voir qu'en réalité c'est plus étonnant qu'il n'y paraît.
Okay.
Parce que l'extrême droite, et en particulier l'extrême droite française, a longtemps été avant tout opposé aux juifs et aux communistes.
Oui, bien sûr.
Et dans ce combat en fait. Contre les juifs et les communistes, les nationalistes arabes, qui se trouvaient être musulmans, pouvaient être vus comme des alliés. Ce qui fait que, en réalité, Charles Martel, vu comme héros français arrêtant les musulmans, c'est là aussi, même à l'extrême droite, c'est relativement récent.
Mais sauf que dans le FN, il y a ces deux branches, justement, la branche qui est plutôt identitaire, et
catholique.
Et la branche anti.
Ce qui les a unifiés très très longtemps, c'était la haine du juif et du communiste. Tant que l'arabe était soumis, et qu'il apparaissait comme un danger nul. Donc là-dessus, alors c'est ça que vont analyser justement, tout ce type de débat, à quoi sert Charles Martel dans le discours politique, sur quelle base historique est-ce que ce discours peut se fonder. Alors, plus précisément, il propose de réévaluer trois assertions qu'on présente comme des évidences. C'est d'une part... l'ampleur de la bataille de Poitiers. Elle est vue comme une... Elle est présentée comme une grande bataille.
Oui, Arrêta, les Arabes, c'est tous les Arabes contre Charles Martel.
On parle de 350 000 morts qui seraient venus accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants et qui avaient l'intention de s'installer. Voilà. Ils vont montrer qu'en réalité, j'y reviendrai peut-être un petit peu, c'était plutôt une armée de razzia. L'armée menée par Abdelrahman. C'était que des hommes qui venaient essentiellement piller.
Quelques milliers ?
Alors, ils ne savent pas trop ça. En gros, j'ai l'impression qu'on ne sait pas.
D'accord.
Mais bon, il y avait quelques milliers d'hommes, peut-être quelques dizaines de milliers, mais bon, c'est quand même compliqué parce que ça veut dire vivre sur le pays, une armée de 10 000 hommes, ça fait beaucoup, c'est difficile. Donc, eux, ils ne précisent pas trop. On n'est pas sûr de savoir vraiment combien.
On est
sûr
que ce n'est pas 350 000 avec femmes et enfants.
Voilà, ça, c'est certain. On est sûr que ce n'était pas une armée d'invasion.
C'est déjà ça.
Donc, déjà, pour commencer. Ensuite, ils vont étudier aussi la place de cette bataille dans l'enseignement de l'histoire en France. C'est-à-dire que la droite identitaire et la droite tout court ont tendance à dire que... ils commencent justement par ça, par une de Valeurs Actuelles de 2013, qui dit « Les héros français piétinés par la gauche, notre histoire massacrée, où sont passés Clovis, Saint-Louis, Louis XIV, Napoléon ?» Et évidemment, en couverture, il y a Charles Martel à la bataille de Poitiers. On voit l'image d'un type qui brandit un marteau et qui écrase un sarrasin. ils ont fait ça parce que... Ils ont publié ça parce que l'inspection d'histoire... qui sans nul doute d'ailleurs est sous la coupe de musulmans radicaux,
très probablement,
avait décidé de faire enseigner 2-3 choses sur l'Afrique.
Ah oui, non, ça leur posait
donc
problème.
Donc c'était intolérable. L'inspection d'histoire n'est pas particulièrement progressiste, faut le savoir entre nous.
ça m'étonne pas trop.
Mais évidemment, pour les identitaires, elle est sous la coupe des homosexuels et des musulmans.
voire des deux. Est-ce que les identitaires pensaient qu'on enseigne encore la phrase « Charles Martel arrêta les Arabes » qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, en fait?
On verra plus tard, mais... en gros, ils font comme si Charles Martel avait été un grand héros français acclamé dans tous les livres d'histoire sur des milliers de pages.
Et que tout d'un coup, on décide que.
Et que tout d'un coup, on décidait de l'ignorer. Là encore, c'est faux.
D'accord.
Charles Martel est au mieux un personnage secondaire dans l'enseignement de l'histoire en France depuis le 19e siècle. Donc, au mieux. C'est-à-dire que quand il occupe 2 pages, quand il occupe 5-6 lignes, même.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal. Donc ça c'était le deuxième truc, la place de la bataille, donc l'enseignement de l'histoire en France. Et enfin, quelle était l'image de Charles Martel lui-même?
Et ça, en son temps
plus qu'en son temps en fait, ils refont en quelque sorte l'historiographie, c'est-à-dire qu'ils vont voir quelle était l'image de Charles Martel au Moyen-Âge, quelle était l'image de Charles Martel à l'époque moderne, et quelle a été l'image de Charles Martel ne serait-ce qu'au XXe siècle.
D'accord.
Et en fait,
les gens savaient, etc.
C'est ça, ce genre de questions. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, avant de voir peut-être la bataille de Poitiers dans son contexte, je pense que, parce que c'est important, on va avoir une petite plage musicale. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, dans une émission consacrée à Charles Martel et la bataille de Poitiers. C'est le titre d'un livre écrit par William Blanc et Christophe Nodin, publié chez Libertalia. Voilà, ce titre est de l'histoire au mythe identitaire. Donc là, on va voir l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'a été la bataille de Poitiers? Dans quel contexte est-ce que cette bataille a lieu? Alors, bon, vous venez d'entendre aussi la fraction... Un marchand de peur, donc un petit morceau choisi par José qui a eu bien du mal à trouver des, des morceaux de musique qui allaient avec le thème de ce soir, parce que la plupart du temps c'était soit un camp soit l'autre, et c'était pas des choses qu'on avait vraiment envie de diffuser.
Mais il y en avait beaucoup quand même qui existaient.
Bah ouais,
c'est pas le problème.
Bon, quand t'as épuisé tous les groupes liés à Génération Identitaire et au Bloc Identitaire, il te reste peut-être quelques musulmans fanatiques, non? Même pas. Ah bon, c'était des Ricains ou des Français, d'accord. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que faisait, première question peut-être. Alors, bon, est-ce que la bataille de Poitiers, c'est la question que posent les auteurs, est un moment décisif dans une espèce de guerre sainte qui aurait opposé l'islam et la chrétienté?
Ça, c'est le mythe.
Ça, c'est le mythe tel qu'il a été popularisé, entre autres, par quelqu'un comme Samuel Huntington. Donc, dont on parlait dans les mythes.
Mais qui était déjà comme ça avant, non, dans les écoles françaises?
Non, pas en fait, non.
D'accord.
C'est plus compliqué que ça, tu vas voir.
C'est
en réalité, okay. Oui. Pourquoi? Alors, bon, déjà, donc, que faisaient les premières questions? Que faisaient les musulmans à Poitiers? Bon, moi, quand j'étais petit, ça ne me posait pas de questions parce qu'il y avait plein de musulmans dans ma classe. Et donc, je trouvais ça tout à fait normal que s'il y avait des musulmans dans ma classe à Saint-Denis, il devait aussi y en avoir à Poitiers. Hein. Bon, c'était en 632, mais bon. quand on a 8 ans, on ne se pose pas des questions très compliquées, hein, faut pas déconner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, pour aller vite, hein, je vous dis ça, des choses comme ça, en 632, Mohamed meurt, sans instruction ni consigne pour ses successeurs, et il a établi une certaine domination sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Mais il n'en est pas sorti. Il a un successeur qui va régner très très peu de temps, et c'est sous son deuxième successeur, Oumar, qu'en 634, que les conquêtes commencent. Et alors, les historiens ont encore beaucoup de mal à expliquer le succès de cette conquête, parce que les musulmans de l'époque vont se heurter quand même à deux empires costauds, l'empire des Sassanides et l'empire byzantin. Mais ils vont quand même réussir à se tailler une place là-dedans. Et on pense que les conquêtes ont une dimension qui est à la fois religieuse et politique. C'est inséparable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les historiens parlent de conquête islamique. Parce que malgré tout, il y a l'idée. Il y a le thème du djihad qui a été analysé, enfin, comment dire, qui a été surtout développé après la mort du prophète. Mais qui, malgré tout, dit que il faut étendre le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu sur terre, ça passe par la conquête. Bon, en 650, il y a l'arrêt de la première phase de conquête. Qui est lié à une dynamique particulière, justement, à ce pouvoir politique qui s'étend brutalement et qui après est déchiré plus ou moins par des guerres civiles, qui se calme, qui repart, etc.
Donc, mais ils avaient des troupes quand même.
Ah, ils avaient des troupes. Il semble que ça fait partie des raisons pour lesquelles on explique leur succès militaire. Mmh. Il semble qu'ils aient eu des troupes plutôt efficaces, très très mobiles. Qui était très motivé, contrairement aux armées de mercenaires qu'on pouvait trouver dans les empires sassanides ou byzantins. Et donc, bon.
Et puis ils étaient dans la conquête, donc forcément ils étaient.
Ils étaient dans la conquête, alors bon, il y avait sans doute des éléments psychologiques, mais aussi sans doute aussi quelques éléments peut-être économiques ou politiques. Peut-être que les empires en face d'eux étaient aussi un peu faibles ou trop étendus pour pouvoir se défendre contre des gens qui allaient très très vite. Parce qu'ils menaient des guerres de type on frappe un endroit et puis on s'enfuit si les choses tournent mal et on part dans le désert, on peut pas trop nous suivre.
donc ils étaient extrêmement efficaces.
Donc ils étaient très efficaces. Bon, mais malgré tout, en 650, la phase de conquête s'arrête et vous avez le premier schisme qui traverse l'islam avec, entre les sunnites et les chiites, puisque vous avez Ali qui va être assassiné en 61, je crois, enfin, ou 59, je ne sais plus, ça va donner lieu au schisme. Mais ça va aussi donner lieu à l'assise du premier califat sunnite, qui est celui des... Enfin, je crois qu'il est sunnite, j'en suis pas sûr. Mais bon, par opposition au chiite, on pourrait penser qu'il est sunnite. Le premier califat qui est les Omeyyades, et qui va ouvrir en 661 la deuxième phase de conquête. Bon, et la deuxième phase de conquête, elle va s'étendre, du côté ouest, ils vont conquérir aussi le Maghreb, ils vont venir à bout des Berbères qui s'opposent violemment. Mais ça va très très vite malgré tout pour cette époque, c'est que dans les années 710, ils sont en train de conquérir l'Espagne.
Ça va vraiment très vite.
Et oui, donc parce que c'est, vous voyez, c'est en gros la bataille de Poitiers a lieu 100 ans après la mort du prophète Mohammed. Et en 710, ils sont en train de conquérir l'Espagne qui à ce moment-là est sous la coupe des Visigoths. Oui, non, c'est, on apprend des choses comme ça, c'est étonnant. Les Visigoths s'étaient installés en Espagne et avaient chassé les restes de l'Empire romain, sans doute.
Et les chrétiens, il n'y en avait pas en Espagne à l'époque, c'est une question bête, mais.
Alors, si, les Visigoths, je crois qu'ils étaient convertis au christianisme, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est très compliqué. À l'époque, ce n'est pas du tout évident.
Ouais, ça a l'air
justement,
bizarre.
C'est une bonne question.
Ouais, je sais pas.
Parce que tu as les Lombards qui ne sont pas forcément chrétiens, qui sont du côté de l'Italie. La christianisation est loin d'être achevée en Europe à ce moment-là. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Mais bon, suite à des différends qui traversent aussi le pouvoir visigoth en Espagne, les musulmans vont pouvoir prendre pied. Alors, pas toujours avec l'accord des autorités centrales, d'ailleurs.
Mais ils s'installent quand même.
Mais ils vont s'installer. Et ils arrivent dans le sud de la France. Ils commencent à traverser les Pyrénées vers 719. Bon, dans le même temps, en Gaule, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'ai appris des tas de choses sur la Gaule franque du début du 8e siècle. La situation en fait en Gaule à ce moment-là, et la Gaule franque, c'est-à-dire c'est les Francs qui sont arrivés de l'Est et qui ont soumis les Gallo-Romains. Bon. Cette distinction entre les Francs et les Gaulois, enfin Gallo-Romains, servira pendant très très longtemps aux monarchies françaises pour justifier la différence de classe sociale par une différence de race. Nous sommes les conquérants, nous descendants des Francs, et vous, pauvres paysans, vous descendez des Gaulois que nous avons soumis il y a bien longtemps. Bon, donc ça, il faut le savoir, voilà, de ce point de vue-là, vous avez déjà un contexte un peu particulier. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que la monarchie mérovingienne, donc qui descendrait de Mérovée, est affaiblie depuis la fin du 7e siècle. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez des familles puissantes et ambitieuses qui parviennent à la fonction majeure de maire du palais. Dans les différents royaumes, donc de l'Austrasie à la Neustrie. La France, à ce moment-là, n'existe pas, pour être clair.
C'est quoi un maire du palais?
Alors, le maire du palais, ça, c'est un truc que, pareil, j'ignorais tout de ça avant de lire le livre. Donc, je vous lis un petit passage. Les maires du palais sont, à partir de la fin du VIe siècle, des membres importants de l'entourage des rois mérovingiens, sur lesquels ils prennent l'ascendant à la fin du VIIe siècle, alors que les Pipinides, et notamment le père de Charles Martel, Pépin II de Herstal, monopolise la fonction au détriment d'autres familles de l'aristocratie franque. Et en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, le maire du palais, c'est une espèce de premier ministre.
Officieux ou...
Officiel.
Officiel, d'accord. Donc il a les pouvoirs.
Sauf qu'il a énormément de pouvoirs, en réalité. Et en particulier, c'est lui qui peut mener des guerres. Enfin, il mène des guerres. Donc
général,
il a la tête d'armée, il peut être général. Et au moment où Charles Martel... qui en réalité, enfin, qui est le père de Pépin le Bref, et donc le grand-père de Charlemagne, au moment où, où Charles Martel est maire du palais, il est assez puissant pour décider plus ou moins faire et défaire les rois mérovingiens. Parce que bon, ça a été un petit peu compliqué, il y avait d'autres familles de l'aristocratie mérovingienne, de l'aristocratie franque qui se battaient pour accéder au pouvoir. Et donc il y a les Pipinides, sous les rois Clotaire II et Dagobert. La mort de Dagobert provoque justement un regain de tension avec d'autres familles. Donc il y a des luttes internes chez les Francs. Et les Pipinides vont tenter un coup d'état en 656, qui échoue. Donc en 682, il y a Pépin II qui devient à son tour maire du palais d'Austrasie.
C'est le père de Charles Martel, si j'ai bien suivi.
Oui, c'est le père de Charles Martel. Et Charles Martel, il arrive finalement à réunifier le royaume mérovingien. Il va obtenir le titre de duc des Francs.
C'est mieux que maire du palais, ça lui donne des pouvoirs?
Alors, en quelque sorte, c'est plus ou moins maire du palais. C'est-à-dire qu'il se contente, lui, d'organiser des fidélités sans tenter de renverser les rois mérovingiens. Il va se rapprocher de Rome et du pape pour obtenir son soutien. Et quand il meurt, ce maire du palais, donc en 714... donc c'est Pépin II, il a un héritier qui est un enfant de 6 ans, Théodebald, et en réalité, les choses là sont un peu complexes, bon, on passe les détails, mais c'est son fils qui s'appelle un fils Charles, qui est un bâtard, il est fils de Pépin II d'une concubine, qui va rapidement prendre l'ascendant. Et en fait il va battre tous les camps rivaux,
en réunissant autour de lui Fédèle de son père, donc, bah, les Frisons, les Neustriens, les Vinci, enfin bref. Et Plectrude, je crois, qui est une reine, doit lui abandonner le pouvoir. Donc
là, il a le pouvoir.
Ouais, il a le pouvoir. Il va mettre sur le trône le jeune Clotaire IV en remplacement de Chipéril II, qui avait été défait à Vinci. Donc en fait, il fait les rois à ce moment-là. D'accord. Donc la situation est particulière, c'est que il vient d'un plus ou moins. Enfin, comment dire, il tient le pouvoir, mais il est dans une situation où il est censé avoir un roi au-dessus de lui, mais c'est lui qui exerce le pouvoir. Donc il est dans une dynamique finalement de limite de prise du pouvoir. Enfin, on peut voir ça comme ça.
Ça ressemble pas à un personnage secondaire, ça.
Non, c'est pas un personnage secondaire, mais tu vas voir après. Ben après, tu vas voir, c'est compliqué parce que ce qu'il va faire, et ça alors, je sais pas si j'aurai le temps de le développer, mais pour assurer sa position qui est précaire malgré tout, il veut s'assurer de nouveaux fidèles. Et donc il va piquer des terres à l'église pour les distribuer à ses alliés. Donc ça, c'est un premier truc. Alors ça va être lié au fait que, ça va entraîner le fait que pendant très très longtemps au Moyen-Âge, Charles Martel aura une image très très négative auprès des défenseurs de l'église, qui l'accuseront régulièrement d'avoir justement spolié l'église et qui diront qu'il est en enfer. Qui est très très mal vu de l'église catholique pendant très longtemps.
Ça, j'avais pas l'impression en fait.
Mais bon, en même temps, l'essentiel de sa légitimité tient à ses victoires militaires. Et donc, il va conduire une politique d'expansion tous azimuts. Il va à l'est, contre les Frisons, l'Allemagne, la Bavière en 718. Il utilise malgré tout l'église, hein, il aide les missionnaires, donc il a l'appui de Rome. Parce qu'à l'époque, quand on spoliait les terres de l'église, c'était pas forcément mal vu.
C'est-à-dire que Rome,
c'est-à-dire que en fait c'est devenu mal vu plus tard au 9e 10e siècle. Mais à ce moment-là,
pourquoi c'était pas mal vu?
Parce que Rome ne se considérait pas comme propriétaire des terres des terres monastiques. Ils n'avaient pas de prétention à un pouvoir temporel. Donc quand Charles Martel leur piquait des terres, il avait pas l'impression que c'était Rome qui était lésée.
D'accord.
C'était tel monastère.
Okay.
Mais qui était sous l'autorité du roi. Mm-hmm. Au 9e siècle, les choses ont changé, 9e, 10e siècle. C'est plus tard. Donc là-dessus, après avoir piqué des terres à l'église, il soutient leurs missionnaires. Et un peu plus tard, il va se tourner vers l'Aquitaine. Et en Aquitaine, il y a un type qui s'appelle le duc d'Aquitaine, qui est Eudes. E-U-D-E-S. Et en fait, ce que veut faire Charles Martel, c'est plus ou moins essayer de contrôler ce duché d'Aquitaine qui est assez indépendant. Et l'arrivée des Sarrasins au nord des Pyrénées est un bon prétexte pour passer la Loire. C'est ça le truc.
Ah,
okay. C'est-à-dire qu'en fait, les Sarrasins...
Mais ils sont forts en Aquitaine? Ils ont des troupes, tout ça?
Mais il y a plein de choses. Je pense que s'il y a des problèmes politiques, c'est quand même un très grand duché.
C'est-à-dire c'est jouable, en fait.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les terres contrôlées par Charles Martel, qui sont plutôt au nord...
Nord et est
de la France... il contrôle, en termes de taille, c'est à peu près autant que l'Aquitaine.
D'accord.
Et comme à ce moment-là, les Sarrasins sont vus en fait comme des bandits qui viennent piller. Et ils parleront dans les chroniques, quand ils parlent des Sarrasins, parfois ils peuvent désigner les gens qui viennent de l'Est. Mm. En fait, Sarrasins, c'est un terme générique pour signifier les étrangers.
Tous ceux qui ne sont pas chez nous, qui viennent nous piller.
C'est ça. et l'arrivée des Sarrasins au nord des Pyrénées, aux Pyrénées, peut donner un prétexte à Martel pour passer la Loire, soi-disant pour venir en aide à Eudes.
Mais pour protéger Eudes.
Voilà. Parce que Eudes, de son côté, lui, il s'est déjà battu contre les princes d'Aquitaine. Voilà. Il se porta à ses devants avec une... Il a déjà vaincu, en fait, des raids Sarrasins. Il a déjà tué un gouverneur d'Andalousie, en 719, il s'appelait Al-Hur. Est-ce qu'il le tue en 719? Parce que c'est le moment où le gouverneur d'Al-Andalus, Al-Hur, lance plusieurs offensives vers le nord. Ah oui, non, c'est Al-Sam qui obtient les premiers succès avec la prise de Narbonne en 719-720. Et donc les Sarrasins s'installent, ils posent une garnison à Narbonne. Et Narbonne va à partir de là être le point de départ principal des razzias dans la région. Après, il y a le siège de Toulouse, sans doute en 721, dans ces eaux-là. Et c'est un échec cuisant parce que le gouverneur arabe lui-même va être tué par l'armée du duc Eudes. Et ce succès, un grand retentissement, on va dire Eudes, voilà, bon, il a réussi à battre les musulmans, tout va bien. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, alors attendez, parce que c'est une histoire absolument compliquée, parce que en fait, à ce moment-là, les Sarrasins s'installent un petit peu dans la région. Ils vont passer des alliances avec différentes personnes. Ils peuvent, comment dire, des chrétiens peuvent s'allier avec eux contre d'autres chrétiens. Enfin, ici, ce qu'il faut voir, c'est que, en réalité, le motif religieux est très très faible dans les choix politiques et militaires.
Ils font de la diplomatie, quoi.
Ils font de la diplomatie, ils font du commerce. Et c'est pas forcément le fait qu'ils soient musulmans qui va jouer. Parce qu'à l'époque, les musulmans, en fait, les chrétiens savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est des païens.
Oui, donc ça les gêne pas plus que ça.
Ça les gêne pas, c'est des païens, quoi. C'est comme ça qu'on peut les représenter en train de prier Apollon, Jupiter et Mohamed. Dans la littérature de l'époque. L'idée d'un choc des cultures, d'une menace portée contre la chrétienté...
ça leur passe pas par la tête.
Non, absolument pas. Éventuellement ils défendent leur pays contre des envahisseurs, ils vont défendre les chrétiens contre des païens, mais c'est pas
parce
vraiment
qu'ils se sentent beaucoup plus puissants finalement.
Non, c'est juste que l'islam vient de naître et qu'ils ont absolument aucune idée de ce que c'est. Il n'y a pas internet, ils peuvent pas aller taper sur wiki tout ça, et donc ils savent pas ce que c'est, et ils ignoreront ce que c'est pendant des années, pendant des siècles.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, et ça c'est bon.
C'est pas du tout roman national pour le coup.
Non, parce que non, ça colle pas. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la bataille de Poitiers elle-même? Alors je vais à ma page 70. Donc la bataille de Poitiers, ils en parlent assez peu parce qu'ils disent que là, bon, il y a eu des grosses études historiques de qualité là-dessus, même si elles sont aujourd'hui un petit peu datées. Et eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est réévaluer la nature de l'expédition. Des Arabes et de leurs alliés berbères en 732. Et donc, en 732, une expédition qui est montée par le nouveau gouverneur, Abdalrahman. Et son armée, alors il dit, son armée est conséquente. Probablement plusieurs milliers d'hommes. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais, c'est pas 350 000, mais c'est...
Bon, mais c'est pas un petit raid. Et par contre, elle n'est pas accompagnée, semble-t-il, de femmes et d'enfants. Contrairement à ce qu'affirmeront plus tard un certain Paul Diacre et plusieurs chroniques chrétiennes. Alors la composition de l'armée de l'émir n'est pas connue, mais on peut supposer qu'outre des Arabes et des Berbères, elle pouvait contenir des contingents locaux, notamment Visigoths d'Espagne ou de Septimanie. Donc il y avait sans doute des chrétiens.
Des mercenaires ?
Oui, probablement des mercenaires qui étaient attirés par la perspective du butin, de la razzia et de s'enrichir. Et donc, alors, les sources arabes sont assez vagues, disent-ils. Et en fait, le but, d'après ce qu'ils peuvent savoir, est probablement le pillage. Et ce qui est marquant, c'est, alors je cite le livre de William Blanc et Christophe Naudin, « Chant de la bataille de Poitiers ». L'événement n'est en tout cas pas considéré comme majeur par les sources arabes, qui jamais ne mentionnent une volonté de conquérir le territoire franc ou aquitain. Alors, certaines sources chrétiennes vont accuser le duc d'Aquitaine, de s'être allié avec les Sarrasins, ce qui est quand même rigolo. sachant que Eudes avait arrêté un peu avant, était devenu une espèce de héros de l'Église quand même pour avoir arrêté justement les Sarrasins. Bon, voilà, plutôt en 721. Non.
Donc ça devrait être Eudes a arrêté les Arabes aux Pyrénées en fait.
On pourrait dire ça aussi. À Toulouse. Mais ça pourrait être aussi ça, en 721. Bon. Mais Eudes, finalement, va demander, il semble que l'armée d'Abdalrahman est un peu trop balèze, et Eudes demande de l'aide à Charles Martel. Et parce que le gouverneur a bien franchi les Pyrénées par l'ouest, a remonté la Garonne, a dévasté la région, avant de piller Bordeaux. Et donc le duc d'Aquitaine se fait battre lors d'une bataille, il doit fuir vers le nord. Et on peut penser que c'est à ce moment qu'il demande de l'aide à Charles Martel. Et à ce moment-là, il semble que les deux hommes ont dépassé leur rivalité pour s'allier face à un nouveau danger. Mais le danger, c'est essentiellement des bandits et des pillards. Et donc, alors le lieu précis de la bataille, ça reste à peu près énigmatique, même s'il y a une ville qu'on a retenue, qui s'appelle Moussey-la-Bataille, qui maintenant est utilisée politiquement... On va partir de là. Quant à la nature et à la portée de la bataille, il semble qu'il y a eu pas mal d'escarmouches, en fait... on sait pas trop, il y a plein de choses qu'on ignore.
C'est pas le gros bain de sang.
Non, tout ce que disent les chroniques de l'époque, c'est que ils se bagarrent, le chef sarrasin meurt, la bataille s'arrête parce que la nuit va tomber, et le lendemain les Arabes ont fui. C'est ce qui est dit. On n'en sait sans doute pas beaucoup plus. On sait même pas si ça c'est exact. Mais en tout cas, ça a sans doute pas été un bain de sang, ça a pas été 350 000 morts, assassinés, etc. etc. Donc, là-dessus, leur idée, c'est que, voyons voir, oui, donc là je donne leur conclusion, quoi qu'il en soit, malgré la différence faite par la chronique mozarabe entre Européens et Arabes, peut-on suivre Philippe Sénac, un historien, qui parle d'un choc des civilisations d'où naît l'Europe.
D'accord.
En gros, est-ce que la bataille de Poitiers, c'est le lieu de naissance de l'Europe? Et donc la réponse de Christophe Naudin et de William Blanc, c'est que probablement pas, si l'on prend comme concept la théorie du choc de civilisation de Samuel Huntington, qui définit les grands blocs par leurs appartenances religieuses. Or, cet aspect n'est jamais évoqué dans les sources, que ce soit par la chronique mozarabe ou les autres sources latines. Aucun des chroniqueurs chrétiens n'affirme, comme ce sera le cas durant les croisades, que les combattants morts à Poitiers ont été lavés de leur faute. Les Sarrasins sont désignés comme en Orient, comme des fléaux envoyés par Dieu, pour punir les chrétiens de leurs péchés, au même type que d'autres peuples, comme les Frisons, les Saxons ou plus tard les Vikings. Si la violence de leurs actions fait l'unanimité dans les sources, l'affrontement n'est pas religieux mais politique. Donc la bataille aura un grand impact, mais en fait c'est un impact qui va être interne à la Gaule franque. Parce que qui en réalité a sans doute perdu cette bataille, c'est probablement l'Aquitaine.
D'accord.
Qui à la suite,
parce
que Eudes fait partie du camp des vainqueurs, mais il est redevable à Charles Martel.
Ah oui, d'accord. Charles Martel a gagné un territoire, c'est ça ?
Alors pas vraiment, mais il a gagné un avantage politique. Il ne poursuit pas son avantage, il ne s'installe pas dans le duché d'Aquitaine. Mmh. Il va attendre tranquillement la disparition du duc en 735. Et là, il se rend à Bordeaux. Alors en 741, quand Martel meurt, l'Aquitaine n'est pas encore véritablement soumise. Et les fils de Charles, Carloman et Pépin, affrontent les fils d'Eudes. L'Aquitaine ne tombera définitivement sous domination franque que sous Charlemagne et son fils Louis. Donc la conclusion de tout ça, c'est que Charles Martel n'a donc pas arrêté les Arabes à Poitiers. Une invasion n'a probablement pas été évitée. Et après 732, le gouvernement de Cordoue change de stratégie, tourne son regard vers la Provence. Commence alors une nouvelle phase d'affrontement dans le double contexte des ambitions de Charles Martel sur le sud de la Gaule et des divisions qui minent de plus en plus l'émirat andalou comme le califat islamique. À partir de là, en gros, ils vont s'intéresser plutôt du côté au sud, au sud-est. Ouais. Oui, ils vont s'installer provisoirement en Provence. Ils vont passer des alliances avec des chrétiens locaux. Enfin bref, ils vont partir plus tard. On est tout à fait loin du tableau apocalyptique dressé par
par le roman national et
par le roman national
et les identitaires,
actuellement.
C'est pas du tout ça en fait.
Non. Voilà, il y avait des musulmans qui faisaient des razzias à partir d'une base à Narbonne. Ils ont été arrêtés parce que Charles Martel avait intérêt à rendre service à son rival, le duc d'Aquitaine. Bon, mais une fois qu'il les a battus, ils ont tourné leur regard vers le sud-ouest de la France, sud-est de la France, et c'est tout. Donc, c'est pas très très important tout ça. Alors bon, on va passer une petite pause musicale et puis on va reprendre.
Waste your life, man. Waste your time. Maybe pressure.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Dans une émission consacrée donc au livre de William Blanc et Christophe Naudin, des historiens, un livre qui s'intitule Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, aux éditions Libertalia. Donc, après avoir mis un peu en place les enjeux et vous avoir présenté ce qu'on peut savoir actuellement de la bataille de Poitiers et les buts qui étaient poursuivis par les combattants à ce moment-là. Voilà, Charles Martel qui voulait s'assurer des fidélités du côté de son rival duc d'Aquitaine. Les musulmans d'Espagne qui, de leur côté, avec leurs alliés berbères et aussi espagnols et visigoths et autres, cherchaient à prendre du bon temps en pillant des villes, donc dans le Gaule. On a pu voir que la bataille de Poitiers ne correspondait pas, sans doute, à un moment décisif de ce conflit qui opposerait, soi-disant, l'islam et le christianisme. Donc, la suite des relations le prouve, puisque Charlemagne, le petit-fils de Charles Martel, aura des relations diplomatiques avec un califat. En réalité, dans la plupart des cas, les relations entre musulmans et chrétiens, entre islam et monde latin, sont vraiment liées à des problématiques commerciales, diplomatiques, militaires, et le facteur religieux entre peu en compte à ce moment-là. Donc, c'est pas une guerre sainte, ce type d'affrontement, enfin, l'affrontement de la bataille de Poitiers n'était pas une guerre sainte. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passera à partir du XIe siècle, lors de la Reconquista en Espagne ou des croisades. Alors, après, qu'en est-il du mythe de Charles Martel? Alors, ce qu'on montre là, les auteurs, et c'est l'essentiel du bouquin, est assez intéressant. Alors, je ne pourrais pas vous parler de tout, évidemment. Mais c'est que, en fait, Charles Martel, c'est une figure qui est très très ambiguë des tas de niveaux. Pourquoi ? Parce que déjà, en réalité, pour les rois, c'était compliqué de l'utiliser. Parce que c'est le fondateur d'une dynastie, en partie, les Carolingiens, puisque c'est le petit-fils de Charlemagne. Mais en même temps, c'est plus ou moins le père d'un usurpateur, Pépin le Bref, qui se fera couronner roi en chassant les Mérovingiens. Donc, c'est emmerdant parce que si on est roi, insister sur Charles Martel pour essayer de montrer la continuité de la lignée, ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est quand même donner des gages à quelqu'un qui n'était pas roi et qui, par son action, a pris le pouvoir au roi. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est un premier point. Du côté de l'Église, c'est aussi très compliqué puisque, à partir du 9e siècle, il est vu par les gens d'Église comme un tyran et un spoliateur.
Parce qu'il leur piquait leur terre. Et là, ils n'étaient plus d'accord.
Et donc, ils vont en fait se servir de la figure de Charles Martel. Et ils vont profiter justement du fait qu'il était pas roi pour se servir de son exemple afin de faire des remontrances au roi. Du type, regardez. Alors,
regardez ce qui fait votre
passage qui va être, il y a un truc qui va être utilisé, c'est un songe, le soi-disant songe de Cher. Mm-hmm. Alors, c'est une invention totale du 9e, 10e siècle. Le Cher, c'était un ecclésiastique réputé qui aurait perdu sa charge à cause de Martel.
Pourquoi ?
Parce que Martel voulait ce qu'il avait pour le donner à des copains à lui. Enfin, bon, un coup classique à l'époque. Ça a été fait des tas de fois. Bon. Et au 9e siècle, on s'aperçoit qu'en fait, Cher aurait fait un rêve à l'époque. évidemment. Attendez, je crois que c'est ça parce que c'est toujours des histoires assez compliquées.
Il a vraiment été spolié ou il a rêvé qu'il l'était ?
Non, il était vraiment spolié.
C'est pas pareil.
Semble-t-il qu'il était vraiment spolié. Mais en gros, l'idée c'est que la vision de Sainte-Chair, voilà. Donc cette condamnation prend sa source dans la vision de l'évêque d'Orléans, Sainte-Chair. Ah non, il est postérieur à Charles Martel. Il arrive après. Je m'étais trompé. Je m'étais pas trompé. Ce dernier fut banni par Charles Martel à l'abbaye de Saint-Tron, sans doute pour le remplacer par un fidèle. Voilà, c'est ça. Et un siècle après la mort de l'évêque, les petits-fils de Charlemagne se livrent à une lutte sans merci et accaparent des biens de l'Église pour payer fidèles et guerriers, pratique habituelle mais qui rencontre de plus en plus de résistance de la part d'une Église qui se conçoit depuis le début du 9e siècle comme l'arbitre de la société. Et c'est alors qu'une légende émerge, rapportée dans la vie du Saint Rigobert. Elle raconte que Eucher, donc la victime de Martel, là, en prière à Saint-Tron, est enlevé par un ange qui lui montre Charles Martel en train d'endurer les tourments de l'enfer.
C'était un signe.
Laissons un bref instant place au texte d'origine. Alors, comme il interrogeait à ce propos l'ange qui le guidait, il lui fut répondu que, sur la décision des saints qui participeront avec le Seigneur au jugement futur, et dont Charles enleva et divisa les biens, il avait été condamné dans son corps et dans son âme avant le jugement à des peines éternelles. Revenu à lui, Eucher appela Saint Boniface et Furade, abbé du monastère de Saint-Denis et archichapelain du roi Pépin. Il leur raconta tout cela et leur donna l'ordre, à titre de preuve, d'aller au sépulcre de Charles et que, là, s'ils ne trouvaient pas son corps, ils devaient croire à la véracité de ses dires. Ils se dirigèrent donc vers le susdit monastère où le corps du dit Charles avait été enterré. Ils ouvrirent son tombeau et, subitement, ils en virent sortir un dragon et ils trouvèrent l'intérieur du sépulcre complètement noirci, comme s'il avait été incendié. Enfin, donc Charles Martel était en enfer. Chers auditeurs, vous savez, voilà, le grand défenseur de la chrétienté a été puni pour avoir volé les gens d'église. Bon,
c'est une révélation quand même.
c'est quand même important. Je pense que ça devrait, il fallait que ce soit dit. Bon, et en fait, Donc bon, Charles Martel du côté des rois, du côté de la mémoire d'État, occupera aussi une place un peu particulière. Par exemple, Philippe le Bel. Qui lui aussi va spolier des gens d'église, en particulier les Templiers, etc. Donc, par exemple, Philippe le Bel lui donnera une place à Saint-Denis et il le couronnera, il lui mettra une couronne alors que Martel n'a jamais été roi. Par contre, il va éviter de le mettre dans un endroit où il y a beaucoup plus de gens qui passent et où on essaie d'illustrer la continuité de la dynastie royale. Bon, là, on le planque parce qu'il est un peu caché, parce que c'est quand même, bon, c'était pas un roi, fils d'un usurpateur, père d'un usurpateur, c'est quand même embêtant. Et donc, en fait, pendant le Moyen-Âge, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que Charles Martel, en dehors de ces petits débats qui ne touchent qu'un tout petit cercle de lettrés, Charles Martel est complètement oublié. Tout simplement, et dans toutes les chroniques moyenâgeuses, on parle de lui, alors ça dépend après aussi de la dynastie à laquelle on appartient, enfin, de la lignée à laquelle on appartient, mais quand on en parle, c'est beaucoup moins que par exemple que pour la bataille de Bouvines ou pour que d'autres batailles qui ont été complètement oubliées aujourd'hui, dont on parle plus du tout. Mais globalement, ça a reçu 5-6 lignes dans des chroniques qui font 12 volumes.
Ah oui, c'est vraiment rien.
C'est vraiment rien.
C'est même pas 5-6 lignes dans un livre d'histoire d'une année d'école primaire.
Non, non, c'est-à-dire que il est globalement oublié. Il est oublié ou alors il va être utilisé, par les ecclésiastiques pour faire des remontrances déguisées au roi. Et ça, c'est quand même assez amusant parce que finalement, ce que disent les auteurs, là, Charles Nodin et William Blanc, c'est qu'il faudra attendre 3 poussées mémorielles pour que Charles Martel soit glorifié.
À quel moment Qu'est-ce qui s'est passé
Alors, ils disent début des 8e, où on le compare au premier Bourbon. C'est, en gros, c'est lors d'un changement dynastique. Mm-hmm. On vire les Capétiens. Ouais. Enfin, les Capétiens se font virer.
Il illustrait le changement, donc c'est pour ça.
C'est ça. Donc c'est une figure qui est très très ambiguë de ce point de vue-là. Ouais. Il peut être utilisé
par
des nobles qui veulent mettre en place une nouvelle dynastie. Ouais. Le souci, c'est que du fait de l'Église et du fait de tout un tas de choses, il a quand même une petite réputation de tyran. Donc c'est un peu emmerdant. on ne sait pas trop quoi en faire de Charles Martel, en réalité. C'est ça qui est amusant dans l'historiographie. Donc il y a ce moment au début 18e, où il est comparé au premier Bourbon. Hein, et il y a aussi début 19e, où il va être réemployé par Chateaubriand. Chateaubriand qui défend le christianisme et qui propose une vision complètement romantique du Moyen-Âge, une vision dont on a plus ou moins hérité d'ailleurs. En gros, c'est la vision d'un Moyen-Âge où ça a été pas mal repris par le romantisme allemand, où on suppose que les paysans avaient une foi simple et pure, où tout le monde croyait en Dieu sans discuter, etc. etc. Bon, historiquement, c'est des conneries. Vous avez un livre de Robert Muchin-Bled là-dessus, un livre d'histoire qui est tout à fait intéressant, où il montre à quel point la christianisation était superficielle dans les campagnes françaises jusqu'au XVIe, XVIIe siècle.
Alors, ils croyaient à quoi, les gens?
Bah, ils croyaient à Dieu, aux saints qu'ils confondaient avec les lutins et les kobolds. C'est-à-dire que en fait, les croyances n'étaient pas du tout.
C'était pas très fixé.
N'étaient pas du tout unifiées comme on l'imagine. Il n'y avait pas une espèce de pureté de la foi. Mm-hmm. En fait, tout était très impur. Et voilà, les paysans français du XIVe siècle, ils croyaient à Dieu et à diable, mais aussi aux lutins, aux kobolds, aux farfadets, à la Dame Blanche. Et les saints chez eux étaient quasiment, enfin, ils étaient quasiment encore polythéistes. C'est-à-dire que très très fréquemment, les saints recevaient plus d'hommages que Dieu lui-même, puisqu'on allait prier Saint Machin, on allait prier Saint Bidule. Ça a sans doute pas trop changé.
Mais
dit
personne
ne
leur disait rien, en fait, à l'époque.
Mais non, parce que les curés de campagne
ça
étaient comme eux.
Ouais.
C'est ça qu'il faut voir. Et les curés de campagne, ils vivaient aussi de la dévotion qu'on portait pour les saints locaux. Donc, Chateaubriand, il a participé sans doute à la création complète d'une vision enchantée du Moyen-Âge chrétien. Et lui, ce qu'il va dire, et ce qui a été repris ensuite, ce qui est devenu une espèce de topos, enfin de lieu commun pour beaucoup de gens, c'est qu'il va dire que les croisades du XIe siècle étaient en réalité une réponse à l'invasion musulmane de 732.
Ouais. Okay.
Et donc là, c'est clairement... alors qu'avant, Charles Martel pouvait être mobilisé par les partisans de l'absolutisme, qui en faisaient le mouvement d'affirmation d'un pouvoir central fort. Après, que je vous dis, à un moment aussi, on a vu qu'il a marqué un moment du recul de droit des églises, de l'aristocratie et des peuples. Enfin, bref, là, il va devenir le défenseur. C'est à ce moment-là qu'il va devenir plus ou moins le défenseur de la chrétienté. Sauf que, alors je vous cherche une citation de Chateaubriand, parce que lui il réagit aux Lumières justement. Voltaire était beaucoup plus ambigu que ça à l'égard des musulmans, qu'il admirait Mohamed, donc il ne voyait pas forcément dans Charles Martel quelqu'un de bien. Et lui, en réagissant à la révolution aux Lumières, il va dire que c'est le christianisme qui constitue le ferment de la civilisation, pas l'islam ou le déisme de nombreux philosophes. Et donc, voilà, je vous cite Chateaubriand, qui écrit « Les écrivains du XVIIIe siècle se sont plu à représenter les croisades sous un jour odieux. Les chrétiens n'étaient point les agresseurs. » Ça, c'est Chateaubriand qui nous le dit, hein, pendant les croisades. « Si les sujets d'Omar, partis de Jérusalem après avoir fait le tour de l'Afrique, fondirent sur la Sicile, sur l'Espagne, sur la France même, où Charles Martel les extermina, pourquoi les sujets de Philippe Ier, sortis de la France, n'auraient-ils pas fait le tour de l'Asie pour se venger des descendants d'Omar jusque dans Jérusalem? Il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré, mais encore de savoir qui devait l'emporter sur la terre, ou d'un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à l'ignorance, au despotisme, à l'esclavage, ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le génie de la docte antiquité et qui a aboli la servitude. » Alors ça, c'est Chateaubriand qui oppose évidemment, qui nous fait un conflit des civilisations de première mouture. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les chroniques des croisades ne parle jamais de Charles Martel. Il n'a jamais été à la connaissance des historiens actuels. On ne trouve aucune chronique qui n'évoque l'invasion musulmane du 8e siècle qui justifierait les croisades. Ça, c'est une reconstruction complète de la part de Chateaubriand.
C'est impressionnant quand même.
Ouais, c'est quand même pas mal, mais qui va complètement imbiber le discours.
Ah, c'est à la vie dure en fait.
Ah ouais, oui, c'est... Il a participé, Chateaubriand, un petit peu comme Michelet dans Le Camp opposé. Ouais. Ils ont participé tous les deux à l'image qu'on se fait de l'histoire de France aujourd'hui, qui est souvent très très détachée de l'histoire de France réelle. Ne serait-ce que parce que ce qu'on pourrait dire, c'est que la bataille de Poitiers, ce n'est pas l'histoire de France. La France n'existe pas au moment de la bataille de Poitiers. Donc, c'est l'histoire de la Gaule franque qui est séparée en trois territoires. Au moins.
Bon. Tout à fait autre chose.
C'est tout à fait autre chose. Bon. La France commence à prendre la gueule qu'elle a actuellement. Je crois que c'est sous Philippe le Bel. Donc c'est beaucoup plus tard. Et après la troisième poussée mémorielle qui va glorifier Charles Martel, c'est au début du XXIe siècle. Et elle est sans doute liée justement à la chute du communisme.
C'est bizarre, non?
Non, c'est assez logique. C'est-à-dire que le discours de Huntington sort au moment où finalement en 1996, les États-Unis se cherchent un nouvel ennemi. Mmh. Il faut justifier des dépenses d'armement massives. Mmh. Et on n'a plus les communistes. Il n'y a plus l'urgence, donc ils sont emmerdés. À ce moment-là, t'as Colin Powell qui dit on lui demande est-ce qu'on va baisser les dépenses d'armement. Et il dit
surtout
non, les États-Unis doivent rester terrifiants. Mmh. Donc il faut un nouvel ennemi. Et ce nouvel ennemi, ça va être des anciens alliés contre l'URSS, à savoir les talibans. Mais alors là, après, il y a plusieurs interprétations divergentes, en particulier par exemple le bloc identitaire français, lui, va penser, après ce qui se passe un moment dans l'ex-Yougoslavie où les Américains défendent les musulmans, défendent des populations musulmanes contre le pouvoir serbe, je crois, les identitaires vont se dire qu'en réalité, il faut parler d'islamérique. C'est-à-dire que ouais ça complique
la donne. Anti-américains et anti-communistes, anti-musulmans.
Oui.
Oui. C'est compliqué.
Bah, finalement, tu sais, ils reprennent. Ils pensent encore comme l'extrême droite. Tu sais, les nazis, ils avaient par exemple un truc, c'était que pour eux, c'était les juifs qui dominaient le monde par l'intermédiaire des Américains et des Soviétiques. Mmh. Et qu'en réalité, il y avait une alliance des deux, puisque le fondateur de l'URSS, c'était Karl Marx, un juif, et que les États-Unis étaient dominés par des juifs. C'était la vision d'extrême droite, la vision nazie du monde. Et finalement, les identitaires, quand ils disent l'islam, ça remonte un petit peu à Drummond. Mm-hmm. Et la France juive, mm. Donc un pamphlétaire d'extrême droite français célèbre qui a vendu des milliers de livres. Lui, il allait dire, ben voilà, les sémites, il y a eu trois phases en fait. Il y a d'abord les sémites musulmans qui nous attaquaient en venant du sud, mais maintenant il y a les sémites venus de l'est qui nous attaquent, et c'est les juifs. Et il est représenté dans certaines iconographies comme Charles Martel, mmh. mettant à terre D'accord. le dernier sémite venu nous envahir. Mmh. Alors bon, comme disait José pendant une des pauses, il faudrait se demander aux identitaires ce qu'ils pensent des redoutables invasions vikings. c'est-à-dire qui ont été quand même sans doute, qui ont duré beaucoup plus longtemps, qui ont été beaucoup plus violentes.
Ils aiment bien les vikings normalement.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une... Oui, ben, qu'est-ce que diraient les identitaires si on avait une grosse immigration scandinave, par exemple? Ce serait assez intéressant. Est-ce qu'ils parleraient du grand remplacement et du danger que ça représente pour la
bien,
souche
hein
française? Non, à tous les coups, ils nous parleraient d'une... Alors, tout ça, c'est compliqué aussi par le fait que l'extrême droite française, comme je te le disais, elle était longtemps, finalement, plutôt anticommuniste et antisémite, mm-hmm. mais antisémite du côté du juif, ouais. qu'anti-arabe. Ce qui fait que très longtemps, par exemple, le Front National a eu un discours qui était plus ou moins pas tellement opposé. Enfin, ils vont mettre beaucoup de temps, le Front National va mettre beaucoup de temps à centrer son discours sur l'immigration. Au début, ils sont vraiment anticommunistes. Mmh. Et c'est dans les années 80, vers 84, que sous l'influence d'une nénette du Front National, ils vont commencer à tourner leur discours contre les Arabes. Mais là encore, il reste un petit peu gêneux en tournure. Et c'est vraiment qu'à partir des années 2000, et de 2001 en particulier, que Charles Martel reprend vie dans les discours d'extrême droite, à la suite des attentats du 11 septembre.
C'est assez récent, en fait.
C'est plutôt
très récent.
Même. C'est même très, très récent. Et c'est pas pour rien que, ben, il y a eu la littérature sur Charles Martel. Elle reprend, ils disent que voilà, c'est depuis 2000 qu'on retrouve, mmh. qu'on commence à retrouver des références. Alors, deux, trois mots sur l'édition scolaire, parce que, justement, beaucoup de gens qui vont dire, maintenant, on n'enseigne plus la vraie histoire de France, on n'enseigne plus les. On n'apprend plus aux jeunes Français qui étaient nos glorieux ancêtres. Bon. Alors vous pourrez le lire si vous lisez ce bouquin donc de William Blanc et Christophe Naudin, Charles Martel et la bataille de Poitiers. Il y a une analyse des manuels scolaires de la Troisième République jusqu'à nos jours.
Ça doit être génial, alors ça évolue.
Alors c'est assez rapide, ben en fait globalement Charles Martel, on lui consacre 5-6 lignes.
Ouais.
Il y a l'édition catholique qui lui consacre quelques lignes de plus.
Mais pas tant que ça.
En fait, et d'après ce qu'on sait, ça a toujours été plus ou moins personnage secondaire dans l'histoire de France telle qu'on le racontait. Il arrive largement après Jeanne d'Arc, après Napoléon, après tout un tas de gens comme ça, qui, eux, ont vraiment été constitutifs du roman national français. Mais même, c'est-à-dire qu'on pourrait dire ça comme ça pour conclure l'émission, c'est que vous avez Charles Martel, et finalement, autant dans l'histoire réelle que dans la mythologie de l'État national français, un personnage très secondaire. The Prophet. I was waiting.